Voyez quel genre d'amour le Père nous a conféré. Pouvons-nous lire dans 1 Jean chapitre 3, verset 1 dans la King James Version. Dieu le Père nous demande de considérer le genre ou le degré d'amour qu'il a pour nous. L'objectif de toute la Bible est de présenter combien Dieu le Père aime chacun d'entre nous. Ne pas croire en l'amour que Dieu a pour nous constitue une entrave à notre relation avec lui. Ce fut une incrédulité au sujet du grand amour de Dieu qui amorça la chute de Satan, d'après ce que nous lisons dans Ézéchiel chapitre 28, versets 14 à 17. Ce fut également une incrédulité au sujet du grand amour de Dieu qui persuada Ève de pécher, d'après ce que nous lisons dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Et c'est encore une incrédulité au sujet du grand amour de Dieu qui nous maintient dans le péché. Ce n'est qu'à travers une révélation de l'amour infini de Dieu que nous serons amenés dans une relation d'amour avec lui, laquelle surpassera toutes celles que nous avons pu avoir. L'objectif de Satan a été de tromper les hommes quant au véritable caractère de Dieu. Il aimerait nous faire croire que Dieu n'est pas aussi aimant qu'il prétend l'être. Et il sait que s'il arrive à nous convaincre de cela, nous n'aimerons jamais Dieu de tout notre cœur. Ce n'est qu'à travers une juste représentation de son amour que nous arriverons à aimer Dieu de manière à accomplir le premier et le grand commandement qui, d'après Jésus, consiste à aimer Dieu de tout notre cœur, d'après ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 22, versets 37 et 38. Jésus déclara « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », d'après ce que nous lisons dans Jean, chapitre 14, verset 15. Cette pensée est également exprimée au verset 23, où il est dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole », Jean 14, verset 23. Dans la Bible grecque, le verset 15 est traduit comme suit. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements », d'après ce que nous lisons dans J.P. Green's Greek Interlinear. Plutôt que d'être un commandement, ce verset est une déclaration concernant une relation de cause à effet. Jésus déclara que si nous l'aimons, la conséquence naturelle de cet amour sera que nous garderons ses commandements. Si nous n'aimons pas Dieu, nous ne pouvons et ne garderons pas ses commandements. Jésus déclara, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi. Et les prophètes, lisons-nous dans Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous n'aurons point d'autre Dieu devant lui. Nous n'adorerons point d'image taillée. Nous ne violerons point le sabbat et ne prendrons point son nom en vain. Si nous aimons nos prochains comme nous-mêmes, nous ne les tuerons point, ne les déroberons point, ne porterons point de faux témoignages contre eux, ne convoiterons point leurs biens, ne commettront point d'adultère et ne déshonoreront point nos parents. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire avec assurance, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi, lisons-nous dans Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Aimer Dieu de tout notre cœur est le premier et le plus grand commandement. Il est évident que nous ne pouvons violer ce dernier et continuer à garder les commandements de Dieu. Comme nous pouvons le voir, si nous nous évertions à garder les commandements de Dieu, notre premier et plus grand objectif sera d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force. Mais comment cet objectif peut-il être atteint? Jean écrivit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Lisons-nous dans 1 Jean, chapitre 4, verset 19. L'unique raison donnée selon laquelle l'homme peut aimer Dieu est parce qu'il nous a aimés le premier. Si nous désirons aimer Dieu, nous devons d'abord voir son amour pour nous. Notre amour pour Dieu sera donc proportionnel à la manière dont nous comprenons et apprécions l'amour que Dieu a pour nous. Si vous considérez que Dieu n'a que peu d'amour pour vous, alors votre amour pour lui sera vraiment petit. Mais si vous considérez que Dieu vous aime suffisamment au point de donner ce qui était le plus précieux à ses yeux, c'est-à-dire son Fils unique engendré, alors votre amour pour lui sera grand. L'amour de Dieu envers nous a paru en ce que Dieu a envoyé son Fils unique engendré dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Lisons-nous dans 1 Jean, chapitre 4, versets 9 et 10, dans la King James Version. Dieu révéla son grand amour pour nous en nous donnant son Fils unique engendré. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Lisons-nous dans 1 Jean, chapitre 4, versets 16 et 17, dans la Louis II, 21. Notre amour pour Dieu est rendu parfait en connaissant, en croyant et en demeurant dans son amour pour nous, c'est-à-dire le don de son Fils unique engendré. Nous devons d'abord comprendre comment nous pouvons connaître l'amour de Dieu au point d'y croire, d'y demeurer et de le laisser parfaire notre amour pour lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Lisons-nous dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16, dans la Louis II, 21. Afin de connaître l'amour que Dieu a pour nous, nous devons considérer comment il donna son Fils, afin que celui-ci puisse donner sa vie pour nous. À propos de la nuit qui précéda la mort du Christ, Marc écrivit « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié. » Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et fort agité. Et il leur dit, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez, c'est-à-dire prêtez strictement attention à. » Et s'en allant un peu plus en avant, il se prosterna contre terre, priant que, s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Lisons-nous dans Marc, chapitre 14, versets 32 à 35. Jésus demanda à ses disciples de regarder ce qui était en train de se dérouler, car il souhaitait qu'ils connaissent et croient en l'amour que Dieu a pour eux, de sorte que leur amour pour Dieu puisse être rendu parfait. Considérons à présent ce qui se passa dans le jardin de Gethsémani. Le terme grec « ektambo », qui fut traduit par « saisie de frayeur », signifie « être frappé de terreur », selon Thayer's Greek Lexicon. Quelque chose arriva à Jésus, et il en fut si terrifié qu'il pria par trois fois afin que cette heure n'approche pas de lui. L'autre terme employé pour décrire la condition de Jésus est le terme « adémonéo » qui fut traduit par « fort agité ». Ce terme signifie « être dans la détresse d'esprit » et « être rempli de dégoût » selon ce que nous lisons dans « Strong Greek Dictionary ». Être rempli de dégoût signifie satisfaire pleinement l'appétit ou un désir de manière à provoquer une hostilité violente et soudaine ou un dégoût des sentiments au point de les abhorrer, d'après ce que nous lisons dans Grolier's New Webster's Dictionary. Jésus était en train d'expérimenter quelque chose qui l'amena à être dégoûté de ses sentiments. Et ce sont ses sentiments qui le terrifièrent. Quels étaient donc ses sentiments? Ésaïe prophétisa que l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité ainsi que la culpabilité de nous tous. Pouvons-nous lire dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6. Jésus expérimenta la honte que nous ressentons lorsque nous péchons, laquelle n'avait fait que s'agrandir jusque-là. Et c'est cela qui amena une séparation entre Dieu et lui. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre, d'après ce que nous lisons dans Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Dieu nous aime assez pour donner son Fils unique engendré. Aussi, il souhaite que nous contemplions ou demeurions sur cette précieuse vérité. C'est que l'amour de Christ nous presse, c'est-à-dire nous contraint ou nous préoccupe. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, dans la Louis II, 21. Nous devons être préoccupés par la merveilleuse vérité selon laquelle Dieu a tant aimé le monde qu'il a permis à son Fils unique engendré d'expérimenter notre culpabilité et de souffrir des conséquences d'avoir eu cette culpabilité posée sur lui. Ésaïe écrivit « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Lisons-nous dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, dans la version Darby. Dieu sait que si nous demeurons sous le merveilleux amour qu'il a pour nous, cela nous modèlera et nous façonnera comme rien d'autre ne peut le faire. Si nous prenons constamment conscience de l'amour que Dieu a pour nous et que nous apprécions cet amour, nous serons finalement si dégoûtés du péché que nous refuserons de lui permettre de demeurer en nous plus longtemps. Ce n'est qu'avec l'aide de Dieu que nous pouvons vaincre le péché. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Lisons-nous dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Il y a quelque chose dans le fait de croire que Jésus est le Fils de Dieu qui nous permet de vaincre le monde, ce qui est la victoire sur le péché, d'après ce que nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Puisque croire que Jésus est le Fils de Dieu nous permet de vaincre le péché, pensez-vous que Satan n'essaiera pas de déformer le fait que Jésus est le Fils de Dieu? Certainement, il le fera. Si nous souhaitons vaincre le monde, nous devons croire que Jésus est réellement le Fils unique engendré, né de Dieu, et que Dieu nous le donna. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils, d'après ce que nous lisons dans 1 Jean, chapitre 5, verset 10. Dieu déclara, « C'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le. » Matthieu, chapitre 17, verset 5. Dieu déclara que Jésus-Christ est le seul Fils qui naquit de lui. Donc, ne laissez personne vous dire le contraire. En parlant de lui-même, Jésus déclara « J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les couteaux. » D'après ce que nous lisons dans Proverbes chapitre 8, versets 24 et 25. Le terme hébreu qui fut traduit ici par « engendré » signifie « naître », d'après ce que nous pouvons lire dans Justinus Hebrew Lexicon. Jésus est littéralement le Fils de Dieu. Il est littéralement né dans le ciel avant que le monde fût. Ce n'est qu'en connaissant et en croyant que Dieu a tant aimé le monde qu'il donna réellement le seul Fils qui naquit de lui que nous pouvons réellement parfaire notre amour pour lui. Par conséquent, ce n'est qu'en connaissant et en croyant que Dieu envoya son Fils unique engendré dans le monde que nous pouvons garder ses commandements. Dans les derniers jours, il y aura un groupe de personnes qui aimera Dieu de tout son cœur. Ils connaîtront l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Ils comprendront que Dieu nous a tant aimés qu'il donna son Fils unique engendré. Ce groupe de personnes est connu comme étant les 144 000. Ils sont ceux qui recevront le sceau de Dieu, d'après ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 4. Ils seront sans tache. Je regardais ensuite, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Apocalypse chapitre 14, versets 1 et 5. Ces personnes ne se soumettront pas à la marque de la bête, et ils seront sauvés de toutes les plaies qui s'abattront sur la terre. Ces personnes comprendront l'amour de Dieu à un degré tel qu'ils ne pécheront pas. Le résidu d'Israël ne pratiquera pas l'iniquité et ne dira pas de mensonge, et une langue trompeuse ne se trouvera pas dans leur bouche, car ils pèteront et se coucheront, et il n'y aura personne qui les effraiera. Sophonie chapitre 3, verset 13 dans la version Darby. Ces personnes seront pour Dieu un témoignage révélant que l'homme peut vaincre le péché. Je souhaite mes amis, faire partie de ce nombre. Mais il y aura dans les derniers jours un autre groupe, lequel recevra la marque de la bête. Il n'y aura que deux groupes au final. Il n'y aura pas de groupe intermédiaire. Soit vous recevrez la marque de la bête, soit vous recevrez le sceau de Dieu. Le groupe qui reçoit la marque de la bête n'aura pas vaincu le péché. Ils continueront à vivre dans les péchés qu'ils auront choisis. Quelle sera leur destinée finale à ces personnes? Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère qui réduira le pays en désolation et en exterminera les pécheurs, d'après ce que nous lisons dans Ésaïe, chapitre 13, verset 9. Les pécheurs seront détruits lorsque le Seigneur reviendra. Ils demanderont aux rochers de leur tomber dessus afin de les cacher de la présence du Seigneur. Chaque péché caressé, duquel on ne se sera pas repenti et que l'on n'aura pas délaissé, nous renversera en ce jour et causera notre destruction. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde, d'après ce que nous lisons dans Proverbes, chapitre 28, verset 13. De grâce, préparez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Il y aura une proclamation qui se répandra juste avant le retour du Seigneur. Et chaque cas sera tranché, soit pour le bien, soit pour le mal. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste devienne plus juste encore. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Or, voici, je viens bientôt et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. Lisons-nous dans Apocalypse, chapitre 22, verset 21. Cela est un avertissement solennel, mes amis. De grâce, préparez-vous.